Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui surpasse tout nom.
Christus, factus est pro nobis, obedies,
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient
« Pas en pleine fête pour éviter une émeute dans le peuple. »
Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient.
« À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. »
Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit,
« Laissez-la, pourquoi la tourmenter? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. »
Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?»
Il envoie deux de ses disciples en leur disant
« Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara
« Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. »
Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient
« Serait-ce moi ?»
Il leur dit
« C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre, il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. »
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna. Il dit
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit
« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. »
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit
« Vous allez tous être exposés à tomber. » Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.
Pierre lui dit alors,
même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas.
Jésus lui répond,
amen, je te le dis. Toi aussi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois.
Mais lui reprenait de plus belle.
« Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples
« Restez ici, moi je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit
« Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. »
Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait
« Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre
« Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. »
De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient pas que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit
« Désormais, vous pouvez dormir. Et vous reposez. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre. »
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu.
« Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. »
À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit
« Rabbi !»
Et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée et frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara :
Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons ? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent.
Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage.
« Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. »
Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus.
« Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi ?»
Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau.
« Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?»
Jésus lui dit.
« Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant. » Et venir parmi les nuées du ciel.
Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit :
Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème, quel est votre avis ?
Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant :
C'est le prophète !
Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit
« Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?»
Pierre le nia.
« Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. »
Puis il sortit dans le vestibule au dehors, alors un coq chanta. La servante ayant vu Pierre se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là
« En voilà un qui est des leurs !»
De nouveau Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour
« Sûrement tu en es, d'ailleurs tu es Galiléen. »
Alors il se mit à protester violemment et à jurer.
« Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. »
Et aussitôt pour la seconde fois un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea.
« Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus répondit.
« Tu le dis, je le suis. »
Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau.
« Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. »
Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit :
Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?
Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas, et comme Pilate reprenait.
« Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?»
De nouveau ils crièrent.
« Crucifie-le !»
Pilate leur disait.
« Qu'a-t-il donc fait de mal ?»
Mais ils crièrent encore plus fort.
« Crucifie-le !»
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde et le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant
« Salut, roi des Juifs !»
Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils emmènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit « lieu du crâne » ou « calvaire ». Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la troisième heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête, il disait
« Eh, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !»
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux
« Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, alors nous verrons et nous croirons. »
Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte
« Eloi, Eloi, lama sabachthani !»
Ce qui se traduit
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient
« Voilà qu'il appelle le prophète Élie !»
L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant «
Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. »
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara
« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. »
Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres, qui était monté avec lui à Jérusalem. Déjà il se faisait tard, et comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ce récit de la Passion que nous avons entendu doit nous permettre de nous rappeler l'importance du mystère de la croix, de la mort de Jésus. Sa résurrection viendra poser ce sceau d'authenticité divine de ce que la mort de Jésus sur la croix a réalisé. En mourant sur la croix, Jésus opère le salut de toute l'humanité. Tout être humain, passé, présent et à venir, est touché au plus profond de sa nature par ce salut. En mourant sur la croix, le Christ porte à leur accomplissement et à leur pleine réalisation tous les sacrifices de l'ancienne alliance qui visaient d'une part à manifester le désir d'être en alliance et en communion avec Dieu et d'autre part à demander pardon pour ses péchés. La mort du Christ sur la croix est un sacrifice qui est à la fois un sacrifice de communion parce qu'il rétablit l'humanité dans une alliance définitive bien supérieure à celle que le Seigneur avait scellée avec Adam et Ève. Il est un sacrifice de paix, le fruit de cette communion. Il est aussi un sacrifice de réparation. Il répare l'injustice des péchés de l'homme en face de la majesté et de la gloire de Dieu. La croix n'est pas seulement pour nous l'occasion, et nous devons le faire, de méditer sur l'amour extraordinaire de Dieu qui vient nous chercher dans notre misère, pour nous pardonner, pour nous dire comme au fils prodigue de la parabole, « Mon fils qui était mort, le voilà ressuscité. Entre dans la maison, viens, mangeons et festoyons. » Il est aussi l'appel à nous associer à l'acte réparateur du Christ. Nous le disons si souvent dans nos journées, dans notre vie, « Oh, c'est une vraie croix pour moi que cette épreuve que je traverse, que ces sentiments qui m'habitent, que cette maladie que je porte. » Eh bien, il nous est donné l'occasion de vivre ces épreuves, ces contrariétés, elles sont si minimes au regard de ce que le Christ a vécu. Il nous est donné de vivre ces croix dans l'unique croix du Christ, pour que nous soyons comme Jésus, des témoins de cet amour, des témoins de la justice, des témoins du don de Dieu. Dans cette passion, il est une réaction de Jésus qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'Église à une époque. Ces deux phrases où, d'une part, Jésus demande à son Père qu'il éloigne de lui ce calice, et d'autre part, ce cri sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si le Christ est vraiment le Fils de Dieu, s'il est vraiment Dieu, comment peut-il se contredire dans cette volonté divine de vouloir s'offrir en sacrifice ? L'Église a répondu par un concile en disant que le Christ était vraiment homme, et c'est toute cette humanité qui transparaît, mais aussi vraiment Dieu, et que cette hésitation qui est manifestée souligne tout simplement que Dieu a voulu nous rejoindre, chacun d'entre nous, dans le plus profond de notre humanité, dans ce qu'elle a de plus faible, de plus misérable, dans cette hésitation, dans ce sentiment même d'abandon à l'égard de Dieu, pour nous signifier que personne n'échappe à l'amour de Dieu, que personne n'échappe à cette rédemption. Tout le monde est saisi par la grâce du mystère de la croix. C'est notre foi, c'est notre certitude. C'est pour cela que lorsque nous pouvons nous identifier à l'un de ces personnages, que ce soit Pierre qui renie, que ce soit Marc, comme la tradition le désigne, qui s'enfuit tout nu en laissant son vêtement, ou que ce soit ces saintes femmes, ou que ce soit ce centurion, Joseph d'Arimathie ou Simon de Cyrène, nous savons que l'amour du Christ vient nous rejoindre. Personne ne peut dire « Dieu m'a oublié ». Personne ne peut dire « Je ne serai pas sauvé ». Il n'appartient qu'à nous de répondre à cet amour de Dieu, de vouloir que la justice s'établisse dans notre vie et de faire de nos efforts, de nos difficultés existentielles, l'occasion de nous associer à cette réparation du Christ. Alors bien sûr, c'est un chemin de croix, c'est-à-dire qu'il faut parfois du temps, que cela dure, qu'il faut parfois, effectivement, à l'image du Christ, faire cette expérience de l'abandon, il faut parfois tomber plusieurs fois, il faut parfois renier ses convictions par peur des autres, il faut parfois s'enfuir, mais des fois aussi, nous le savons bien, nous restons dans une fidélité un peu moindre peut-être que celle que nous rêvons, mais nous restons aux côtés du Christ, discrètement mais sûrement. Que ce récit de la Passion nous aide vraiment à entrer au cœur de notre foi, et qu'ainsi il nous libère de toute peur et nous fortifie dans cette espérance. Oui, nous sommes sauvés par la croix du Christ, et rien ne peut nous détacher de ce salut, si ce n'est simplement notre propre volonté ou notre infidélité. Mais même là, le Christ viendra toujours nous rejoindre pour nous proposer de venir avec lui auprès du Père.